Et alors, rien à voir avec le coronavirus, hein. Encore que l'épidémie dont il est question ce matin avec mon invité, c'est une épizootie, c'est une épidémie qui concerne les animaux, les bœufs en l'occurrence. La scène se passe dans le sud-ouest, le Béarn et le Pays Basque. Plus exactement, nous sommes fin 18e. L'histoire est vraie, elle donnera lieu à la création de la Société royale de médecine. Toute cette affaire est retracée dans un roman. Son auteur est en ligne avec nous. Bonjour Pascal Le Bellay.
Bonjour.
Le temps des foudres, un livre qu'on trouve chez Publishroom. C'est une somme, hein, ce livre, 500 pages, qui reprend, m'avez-vous dit, des éléments de votre thèse. Eh bien, vous l'avez écrit comme un roman, c'est presque un polar d'ailleurs, hein, ça tombe bien, je crois que votre mari est gendarme. On va le parcourir ensemble, hein. On parle d'une épizootie, vous allez nous planter le décor, hein. Quelle ampleur cette épizootie, quelles conséquences? Dites-nous tout ça, Pascal.
Eh bien, en fait, c'est une épizootie de peste bovine. Alors, la peste bovine, c'est une maladie dramatique pour les bovins. Elle est extrêmement contagieuse et elle a été éradiquée en 2011. Vous voyez, c'est récent et jusqu'à son éradication, il n'y a pas de traitement. Donc, au XVIIIe siècle, il n'y en avait pas non plus. Donc, en 1772, des bêtes en provenance de Hollande ont été débarquées à Bayonne, porteuses de ce terrible fléau. Cette maladie étant contagieuse, elle s'est répandue dans tout le Pays basque et le Béarn et a été responsable de la perte de 150 000 bovins, ce qui était absolument
Ah oui.
énorme. Et évidemment, cette crise sanitaire a eu comme conséquence une crise économique, une crise sociale, parce que évidemment, plus de travaux agricoles, plus de tanneries. Et vraiment des conséquences très dures. Et dans le roman, ce que j'ai voulu montrer, c'était les conséquences pour toute la population. Et ça va d'un cagot, qui est un
Ah oui,
personnage.
on apprend ce que c'est qu'un cagot. Il va falloir nous dire ce que c'est, hein.
Oui, alors un cagot, c'est assez typique du Pays basque et aussi du Béarn. C'était des personnes que l'on disait être descendants de lépreux. Et qui étaient vraiment mis au ban de la société. Ils n'avaient pas le droit de posséder de terre. À l'église, ils avaient une entrée à part. Ils étaient, on leur cousait sur leurs vêtements une petite marque avec une patte d'oie rouge. Ils n'avaient le droit de se marier qu'entre eux. Et c'était vraiment le bas de la hiérarchie sociale. Donc, on part du cagot et on va jusqu'à Louis XVI. Donc, c'est pour vous dire, c'est pour voir toutes les conséquences de cet épisode-ci. Et au niveau du Pays basque et du Béarn, eh bien, ça va de ce cagot, mais aussi j'ai voulu absolument qu'il y ait des femmes. Donc
Et
j'ai
oui, on
inventé des
suit
personnages parce
Clarinotte.
que, et oui, parce que malheureusement dans l'histoire avec un grand H, il y a peu de femmes et c'est quand même la moitié de la population. Donc moi j'ai voulu absolument mettre en avant des femmes. Donc on a Clarinotte, effectivement, qui est une éleveuse de bestiaux. On a Liloï, qui est la fille d'un chirurgien. Et on a donc plus tard
D'autres
Marie-Antoinette, mais on a
personnages.
Madame Lavoisier, on a comme ça
Lavoisier.
un certain nombre de personnages. Oui.
Alors, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des personnages, mais on ne s'y perd pas. Hein. Vous nous tenez en haleine, hein. Vous m'avez emmené jusqu'à sur la plage. Hein. J'ai lu votre roman. Je le dis à ceux qui nous écoutent, hein, c'est une vraie plongée dans la vie quotidienne du XVIIIe siècle, celle des champs et celle de la ville, hein, vous l'avez dit, puisqu'on arrive jusqu'à la cour de Louis XVI, puisque des émissaires hein, vont être envoyés à Paris pour faire état de la situation dramatique dans le sud-ouest. Vous l'avez dit, 150 000 bovins sont morts. Il y en a qui ont été confinés, tiens, tiens, des bovins. Louis XVI, ça l'a intéressé, cette affaire. Je crois qu'il était en pleine révolte des farines à ce moment-là. Comment il a géré la situation?
Alors Louis XVI devient roi en 1774, au plus fort de l'épizootie, et il est complètement désemparé parce que qu'est-ce qu'on peut faire contre cette maladie qui a autant de conséquences? Et il a un contrôleur général des finances, Turgot, qui est, alors c'est un peu technique, mais il est physiocrate. Alors la physiocratie, c'est très important au XVIIIe siècle, c'est la théorie économique dominante qui met au cœur de l'action, au cœur de la richesse de la nation, l'agriculture et l'élevage. Donc il y a vraiment, au niveau du gouvernement, une volonté très forte de faire quelque chose. Mais ils sont désemparés, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent aux scientifiques. Et à l'époque, l'instance scientifique, qui existe toujours et qui est toujours très importante, c'est l'Académie des sciences. L'Académie des sciences se saisit du problème, ils délibèrent, ils discutent entre experts, une espèce de commission scientifique finalement, et ils décident d'envoyer sur place un jeune médecin très talentueux, un jeune Normand de Valognes qui s'appelle Félix Wigdazir. Félix Wigdazir va sur place et met en œuvre des mesures que le gouvernement avait évitées. Ce que j'ai voulu montrer aussi dans le livre, c'est essayer de se mettre un peu dans la tête des gouvernants, les mesures qu'il fallait prendre et qu'ils ont un peu tardé à prendre, ce qui a aggravé la crise. Eh bien, c'était, comme vous l'avez dit, le confinement des bestiaux, l'interdiction des foires et des marchés, l'interdiction de les emmener en pâture, et puis même jusqu'à l'abattage des bêtes malades, mais également de leurs troupeaux. C'était très difficile à prendre comme mesure, mais c'est ces mesures qui permettront, au début du XXIe siècle, d'éradiquer la maladie. Il n'y a toujours pas d'autre solution. Donc, Louis XVI, vraiment, a eu un rôle majeur. Ce que j'ai voulu montrer aussi dans le livre, c'est que, même si ce n'est pas le personnage central, bien sûr, du livre, mais c'est que Louis XVI n'est pas toujours, dans l'esprit des gens...
Le bonnet.
Il n'a pas toujours sa... Oui, ce n'est pas du tout un homme qui est un falot. Il a du caractère et il est très intelligent. Après, c'est quelqu'un qui veut bien faire. On ne peut pas lui enlever ça. Moi, je suis une républicaine très convaincue, mais on ne peut pas non plus enlever le fait que Louis XVI était quelqu'un de bien.
Alors, Wigdazir, Félix Wigdazir, vous nous l'avez dit, va être envoyé dans le Pays Basque et dans le Béarn, va faire toutes ses constatations et prendre ses mesures. Et puis donc, la réponse des autorités à cette crise, ça sera la création de la Société Royale de Médecine. Ça n'a pas été sans peine, les médecins ne sont pas toujours d'accord. Là aussi, ça nous rappelle quelque chose. Qu'est-ce que c'est cette Société Royale de Médecine alors ?
Eh bien, lorsque Wigdazir s'est rendu sur place, il s'est rendu compte que les praticiens étaient finalement assez isolés les uns des autres. Les scientifiques étaient isolés. Donc, quand il est revenu, avec l'aide d'un certain nombre de personnages, dont Turgot, dont tout un tas d'autres, et le soutien de Louis XVI, ils ont créé la Société Royale de Médecine. Alors, qu'est-ce que c'est ? Certains de vos auditeurs ont peut-être entendu parler de nos institutions actuelles qui sont bien sûr l'Académie de médecine mais aussi la NSM, l'Agence de sécurité des prédits de santé, France Santé Publique. Eh bien, c'est la même chose sauf en une seule structure, la Société Royale de Médecine, qui avait comme but de lutter contre les épidémies et les épizooties, qui lançait des appels d'offres. C'est ce que fait l'Agence nationale de la recherche à notre époque, c'est-à-dire ils appelaient ça des prix, et puis pour labelliser les remèdes. Alors, labelliser les remèdes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire que des gens inventaient ce qu'on appelait à l'époque des remèdes secrets, mais pour que tout le monde puisse les acheter dans des conditions de sécurité optimales.
Je vous coupe, on le voit dans votre livre, il y a des personnes qui profitent de la crise, qui profitent de la misère, il y a des faux remèdes, il y a ce personnage sombre, Lafitte, qui vient toujours profiter de la misère.
Oui, alors c'est ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est que finalement, c'était l'ensemble les conséquences sur l'ensemble de la population. Donc il y a des histoires d'amour, d'amitié, de trahison, d'escroquerie, de meurtre, mais aussi des espoirs, parce que c'est la vraie vie. Et que finalement tous ces événements, cette crise sanitaire, les querelles entre médecins sur les remèdes qu'il faut prendre, les conflits de pouvoir, d'ego, etc., et jusqu'à la révolution, tout ça est vécu de façon immersive. C'est vraiment l'idée de montrer comment tout ça se met en place et comment c'est difficile aussi bien pour les gouvernements de prendre des décisions que pour la population de les subir.
Alors, Pascal Le Bellay, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous êtes docteur en histoire des sciences. Vous avez écrit un livre donc très, très étayé, documenté. Il s'intitule « Le temps des foudres ». On le trouve chez Publishroom. On en parle ensemble en ce moment. Ce livre, Pascal Le Bellay, vous l'avez écrit bien avant que ne survienne la crise de la Covid-19. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout de même y voir une certaine forme de résonance ?
Oui, vous avez raison. C'est vrai que lorsqu'il est sorti, c'était le début de la crise du coronavirus. Et bien sûr, il avait écrit avant. Eh bien, les résonances, c'est une crise sanitaire que personne ne comprend. Personne ne sait quoi faire. Un gouvernement désemparé qui hésite à prendre des mesures parce qu'elles sont très difficiles dans leurs conséquences. Des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux. et des gens qui subissent des décisions difficiles, qui ne les comprennent pas toujours, qui ne veulent pas toujours les appliquer, et un certain nombre de fraudes qui se font jour et qui rajoutent du malheur au malheur.
Et je
Donc,
rajouterais les médecins qui s'écharpent,
oui.
l'orgueil qui s'en mêle, toutes ces
Oui.
choses qu'on peut retrouver aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous tout ça là?
Ben, si vous voulez, ce que je me dis, c'est que le passé n'est pas un réservoir de solutions pour le présent. Mais à se priver de la connaissance de ce qui s'est passé avant, on s'ampute finalement d'une expérience. Ils n'étaient pas plus bêtes que nous. Et il me semble que quand il s'agit finalement de l'être humain, de sa santé, de son bien-être, c'est dommage de se priver de tout ce qui peut enrichir la réflexion des contemporains. C'est un peu c'est ça l'idée, c'est de se dire c'est quand même dommage de ne pas utiliser, sans penser pour autant qu'il y aura des solutions, mais de profiter des réflexions des autres. On le fait bien pour tout ce qui est économie et philosophie, c'est dommage qu'on ne fasse pas dans le domaine de la santé.
Alors faisons-le là, qu'est-ce qu'on pourrait profiter de quoi pourrait-on tirer profit de l'expérience de cet épisodique du 18e?
Eh bien, déjà, de ne pas tarder à prendre les mesures préconisées, même si elles sont difficiles. Et ça, c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Et puis, tout faire pour lutter contre les fraudes, les escroqueries, et être conscient que les mesures, aussi bienveillantes soient-elles, il y aura toujours des gens pour essayer de les contourner. Et le malheur des crises sanitaires est quand même très aggravé par les fraudeurs. Ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut être conscient. Il faut être conscient aussi que les mesures sont difficiles à prendre et qu'il faut tenir le cap. Je pense que c'est ça. Il faut tenir le cap et c'est compliqué. C'est compliqué pour le gouvernement de savoir qui a raison dans les scientifiques et c'est pour ça que la mise en place de commissions et ne pas laisser une seule personne donner son avis me semble important. Ce doit être des décisions collégiales.
Qu'est-ce qu'elle est devenue, la Société royale de médecine?
Eh bien, elle a très bien fonctionné avec des procédures très très rigoureuses, mais il y a eu la Révolution française et qui, lors de la Convention en 1793, a décidé la suppression des académies et des sociétés savantes. Donc, comme l'Académie des sciences, la Société royale de médecine a été dissoute. Et puis, Félix Hugues d'Azyr est décédé pendant la Terreur en 94, alors pas par la guillotine, mais il est décédé. Et c'était vraiment l'âme de la Société royale de médecine. Donc finalement, si l'Académie des sciences a pu renaître plus tôt, la Société royale de médecine, je dirais, a renaître ses cendres en 1820, en décembre 1820, on fête l'anniversaire sous forme d'Académie de médecine.
Eh bien, on
Et l'Académie
terminera
de médecine
là-dessus. Un
conserve.
immense, un immense merci, Pascal Lebellet. C'est vraiment un livre à vous procurer. Ça s'appelle Le temps des foudres pour vivre l'épidémie de coronavirus en résonance, hein, avec le 18e et rester aussi les pieds sur terre, hein, la nôtre, dans notre sud-ouest, entre le Béarn et le Pays basque, avec de temps en temps quelques incursions à la capitale dans la cour de Louis XVI. Vous êtes nominé pour le prix littéraire du Cotentin, je crois, Pascal Lebellet. On vous souhaite bonne chance.
Ben, merci beaucoup, vraiment, merci. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'à tous les auditrices et auditeurs.